J'aimerais, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est de partager la consolation que nous avons face au changement dans notre vie. Et en Josué chapitre 3, on va lire les cinq premiers versets. Il dit: Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bon, c'est juste pour débuter, mettre un peu, on va parler d'autres passages. Mais on sait qu'en général, l'homme, je dis l'homme en général, c'est-à-dire l'homme, la femme, hein, c'est l'être humain, n'aime pas le changement. C'est pas juste les baptistes, c'est juste l'homme n'aime pas le changement. Surtout quand ils se trouvent dans une situation déjà confortable. Alors, tout changement, ça veut dire, ben, je vais perdre mon confort. Mais surtout quand il y a l'inconnu qui est lié à ce changement. Tu dois arrêter de faire ce que tu fais, de ce que tu, les choses que tu connais, auxquelles tu es familier, et aller vers autre chose qui t'est beaucoup moins familier. Il y a un inconnu. Et on n'est pas aussi rapide à accepter ce changement dans la vie. Il y a des exceptions, hein. Il y a certaines personnes qui font plus facilement face au changement que d'autres. Même, ils aiment le changement. Mais même ces personnes qui aiment ce changement, ils aiment ce changement quand ce changement se fait dans les circonstances qu'eux, ils veulent, qui leur sont favorables, selon leurs désirs et leurs critères. Ici, le peuple d'Israël, pour la génération qui est question dans notre passage, cette génération auquel il s'adresse, Josué, il ne connaissait rien d'autre que le désert. Ils avaient connaissance de la servitude en Égypte, mais ils n'en ont eux-mêmes pas fait l'expérience. Cette génération-là, elle est morte dans le désert, parce qu'ils ont refusé de prendre la terre promise, au moment voulu par manque de foi. La génération présente n'a pas vu ou compris comment Dieu a ouvert la mer Rouge pour sauver son peuple et ensuite engloutir Pharaon et son armée. Mais ils se trouvent maintenant devant le Jourdain et ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux. On va, pas besoin d'y tourner, mais je vais lire pour vous. En Deutéronome, chapitre 1er, verset 34 et suivant, il dit: l'Éternel entendit le bruit de vos paroles, s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre Moïse, contre moi, pardon, parce que c'est Moïse qui parle, et à cause de vous, et il dit: toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous, partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont errer pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération meure. Et là, on se retrouve maintenant. Le peuple d'Israël se trouve de nouveau devant le Jourdain, devant la terre promise. Et dans notre passage de Josué 3, à la fin du verset 4, il dit: vous n'avez point encore passé par ce chemin. Autrement dit, ceci est nouveau pour vous. Josué en a fait l'expérience, ainsi que Caleb, mais personne d'autre. Et un peu plus loin, dans le verset 12 à 17, si vous avez votre passage, vous pouvez lire avec vous, avec moi, parce que c'est plus facile pour vous de lire les paroles que de m'entendre les lire. Josué chapitre 3, versets 12 à 17, il nous dit: maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes, pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent, le pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Alors regardez maintenant un peu plus loin dans chapitre 4, verset 19 et suivant. Le peuple, parce que bon, il y a tout ce passage, ils sont en train de passer, il y a des choses qui se passent, mais à la fin, verset 19 du chapitre 4, le peuple sortit du Jourdain le dixième jour. Ce n'est pas juste un petit passage de « on va sauter sur ce ruisseau ». Et c'est un peuple nombreux, et ça prend du temps. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Vous avez vu ce passage, il rappelle quelque chose qu'eux, ils n'ont jamais connu personnellement, la mer Rouge. Mais il le ramène dans leur expérience. Il dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. S'ils veulent passer à côté à la classe des enfants, ils sont libres d'y aller, il n'y a pas de souci. S'ils veulent rester avec vous, il n'y a pas de souci non plus. Mais, donc notre passage de Josué 3 et Josué 4 nous montre un moment précis dans l'histoire de la vie du peuple d'Israël. Un peuple, une génération qui était face à quelque chose qui était entièrement nouveau pour eux. Et pour nous, quand on fait face à quelque chose de nouveau, généralement, ça inspire de la crainte. Et c'est ce qui s'est passé la première fois. Et ce mémorial avait une double utilité, n'est-ce pas ? Oh, excusez-moi. Une bonne classe ce matin. Mais de mettre ces morceaux de pierre ensemble, d'en faire un mémorial, hein, ça avait une double utilité. Ça devait rappeler ce que Dieu a fait, aussi bien pour les autres peuples que pour le peuple d'Israël, et comment Dieu a opéré un miracle en ce lieu précis pour aider le peuple d'Israël à traverser, il le répète à plusieurs fois, à sec, ce fleuve. Mais il est également ce mémorial est également là pour rappeler que cette fois-ci, le peuple a choisi de faire confiance, qu'ils ont placé leur foi en Dieu et que l'obéissance du peuple pour que Dieu puisse opérer ce miracle. Et cette double utilité. Il est bon pour nous de nous rappeler aussi des moments où nous avons eu ces quelques victoires, où nous avons choisi de placer notre foi en Dieu, surtout lorsque les circonstances étaient difficiles. Et notre chair nous aime nous rappeler de toutes les fois où nous avons failli, où nous avons douté, où nous n'avons pas eu la foi qu'on aurait dû. Mais ça, c'est notre chair. Dieu, lui, il veut nous rappeler aussi des fois où nous avons fait ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on devait faire. Et que malgré nos émotions, malgré les circonstances, malgré ce que nous disaient les autres, on a fait le choix de faire confiance à Dieu et on l'a vu opérer. Et être là à nos côtés. Et comme ça, quand je me tiens de nouveau face à un changement dans ma vie, et que je me fasse à une situation que je n'ai jamais connue auparavant, je peux une fois de plus faire confiance en Dieu aujourd'hui, parce que je sais que ce n'est pas lui qui va faillir à sa parole et à sa fidélité. Je peux lui faire confiance. Vous savez, la foi est quelque chose qu'on doit exercer. Ce n'est pas juste une pratique de la pensée, ce n'est pas juste une connaissance. Mais la foi est quelque chose que moi j'aime. C'est pas imité. J'aime penser comme un muscle. C'est quelque chose qu'on exerce, qu'on met en pratique, quelque chose qu'on doit. Si on le laisse sans rien faire, ben le muscle il va pas devenir plus fort, il va devenir plus faible. Mais que la foi, comme un muscle, plus qu'on l'exerce, le plus qu'on on le met en pratique, le plus qu'elle va s'affermir, le plus qu'elle va se fortifier, même si ce n'est qu'un tout petit peu plus fort que la foi d'avant. Et pouvez-vous, peut-être en vous-même, vous rappeler un moment où vous avez mis votre foi en Dieu pour une situation que vous considériez comme extrêmement difficile. Peu importe si quelqu'un d'autre pensait que c'est une situation facile ou non, si elle semblait extrêmement difficile pour vous, mais que vous avez choisi de faire confiance en Dieu quand même, ben ce n'est pas passé inaperçu et ça a aidé votre foi à grandir un peu plus et à se fortifier un peu plus. Parce que je n'ai même pas besoin de demander si Dieu vous a failli à ce moment-là ou non, parce que je sais qu'il ne l'a pas fait. Vous devrez pouvoir vous rappeler de ces moments que vous ne saviez peut-être pas quoi faire ou comment ce besoin allait être pourvu ou si ce qui va se passer, il y avait un grand inconnu, des questions sans réponse, mais vous avez choisi de faire confiance en Dieu quand même. Vous avez prié, vous n'avez pas douté et vous avez confiance que Dieu allait prendre soin de vous. Ben, Dieu désire à ce que vous puissiez vous rappeler de ces moments-là pour que ça vous encourage à lui faire confiance une fois de plus aujourd'hui avec les circonstances présentes. Parce que, juste parce que les circonstances sont nouvelles pour nous, ne veut jamais dire que Dieu, lui, il est différent. Ah, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui conduit, c'est lui qui fait la différence, pas nous et pas les circonstances. On peut se trouver face à une expérience qu'on n'a jamais connue auparavant, qui nous inspire de la crainte, mais on sait qu'il n'y a rien de nouveau devant Dieu. Et notre foi en lui devrait rester le même. De ne pas faire confiance en Dieu, de choisir, parce que c'est un choix, de ne pas avoir foi en lui, je crois que c'est d'enlever ou de dérober la gloire qui lui revient. Parce que ce n'est notre foi, ce n'est pas oh, « je n'ai pas la foi », c'est plutôt l'honnêteté, dire « je ne lui fais pas confiance ». Quand on place notre confiance en Dieu et qu'on voit comment Dieu répond à notre besoin, on est en train de lui rendre gloire. Ça fait partie des sujets de louange qu'on partage les uns des autres. On le loue, on le remercie. Alors que si on fait le choix de douter, on n'a aucune raison de le louer, de l'adorer, de le remercier non plus. De lui rendre la gloire qui lui est due. Le fait qu'on doit faire face à un changement dans notre vie, un imprévu qui nous déstabilise même, ne devrait pas changer ce que nous savons être vrai de la personne de Dieu. Et j'aimerais nous encourager ce matin à ne pas laisser les imprévus de la vie, les changements qu'apportent, même les grands changements qui nous obligent à faire face à une nouvelle situation, peut-être une situation qu'on n'a jamais dû faire face avant, nous empêcher de placer notre foi en Dieu, nous empêcher de voir Dieu de la même façon qu'avant, et de laisser la crainte nous submerger pour remplacer notre foi en Dieu. Mais j'ai dit tout à l'heure que le titre que j'ai donné à ce message, c'est d'avoir une grande consolation dans les changements de la vie. Et je crois que les changements, même si elles sont souvent difficiles, peut-être même ces changements peuvent être désagréables. Mais nous avons quand même une consolation qui est liée avec absolument chaque changement que Dieu permet, sans exception. La première, c'est qu'il y a la consolation de savoir que c'est toujours Dieu qui désire ou permet les changements dans notre vie. Juste le fait que je me rappelle et que je sache et que j'admette que ce changement auquel je dois faire face, soit Dieu l'a voulu ou soit Dieu l'a permis, ça devrait être une grande consolation pour moi. Si on en revient à Josué, on en revient au premier chapitre, des versets qui sont très souvent utilisés quand on parle de Josué, du livre de Josué. En Josué 1, bon, on va prendre un peu de contexte quand même, le verset premier. Après la mort de Moïse, on parle encore d'un changement, changement de leader, changement de fonction pour Josué, etc. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et quand on voit, on avait commencé en Josué chapitre 3, et on revoit les versets 1 à 4, on voit le peuple qui apporte cette même affirmation à Josué. Et Josué lui-même, n'ayez pas peur, il dit, on va juste prendre le verset 4, il parle de l'arche, qui va, de l'alliance qui va aller devant eux, qui va s'arrêter, etc. Il dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passer par ce chemin. Et le peuple d'Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se tient maintenant devant ce Jourdain et dit, mais on n'est plus contre le fait que Dieu veuille qu'on prenne possession de la terre promise, mais on a déjà un obstacle avant même d'y arriver, avant d'arriver de l'autre côté. Et c'est ces hommes et ces femmes qui ont passé la mer Rouge à sec, qui ont vu la mer se fendre en deux, qui ont marché à travers cette mer Rouge et ont vu Dieu opérer ce miracle devant eux pour ensuite voir Pharaon mourir par ces mêmes eaux, toute cette génération-là, elle est morte. Ils n'ont pas cela en mémoire, ils n'ont pas ce souvenir en eux à part ce qu'on leur a raconté. Les personnes devant le Jourdain sont une nouvelle génération. Oui, ils ont entendu les histoires, tout comme nous entendons les histoires. Ils nous disent, oui, mais ça c'est ce que Dieu a fait pour eux. Nous, c'est nous, ça c'était eux. Même si certains étaient des tout petits enfants, ce ne sont pas eux qui ont fait preuve de foi à ce moment-là. Leurs parents les ont portés, ils l'ont mis dans un chariot, etc. Eux, ils ont tout simplement obéi, suivi leurs parents. Et ces mêmes parents qui, au moment d'entrer dans la terre promise, ont dit non. On ne croit pas que Dieu puisse nous apporter la victoire. On a vu ce que Dieu a fait dans la mer Rouge, on a vu les fléaux qui nous a libérés d'Égypte, mais on ne croit pas que Dieu pourra nous donner la terre promise comme il l'a promis, parce que les villes sont fortifiées, ce sont des géants, et nous on est comme des sauterelles devant eux. Et ne réalisez pas qu'en disant cela, c'était la même chose que s'il disait, ces personnes sont plus fortes que notre Dieu. Ce sont des géants, et même Dieu n'est pas aussi fort et aussi puissant qu'eux. Et on ne peut pas avoir la victoire. Et donc, ils ont choisi de ne pas y entrer. Mais voilà maintenant cette nouvelle génération qui sont devant la terre promise. Et vous savez, les peuples qui habitaient ce pays, ils sont toujours là. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas rétréci. Ce sont toujours des géants. Les villes sont toujours tout aussi fortifiées, peut-être même plus. Il y a eu 40 ans entre-temps. Ils ont peut-être appris de nouvelles choses. Et la première ville qu'ils devront faire face, c'est celle de Jéricho, qui a été connue comme l'une des plus fortifiées. L'histoire, hein, les historiens disent qu'il y avait des courses de chariots qui se faisaient le tour de la ville sur le mur de Jéricho, tellement elle était large. Et ça, c'était le premier obstacle qu'ils devaient faire face, une fois qu'ils passent l'obstacle même du fleuve du Jourdain. Oui, la ville, les géants, les villes, la fortification, elles n'ont pas changé. Mais ce qui a changé n'est pas le peuple, ou les villes qui se trouvaient dans la terre promise, et ce qui a changé n'est certainement pas Dieu, parce qu'on sait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce qui a changé, c'est le cœur du peuple qui ne laisse pas les imprévus, les changements ou l'inconnu d'un chemin nouveau les empêcher d'avoir confiance en Dieu. On ne sait pas comment, Seigneur, tu vas faire pour qu'on puisse prendre Jéricho. On ne sait pas comment tu vas faire pour qu'on puisse combattre ces géants. On ne sait pas comment tu vas... Mais on te croit. On te fait confiance. Vous allez faire... Même si ce que tu nous demandes est illogique, comme marcher autour des murs de Jéricho en sonnant de la trompette, sans lancer la moindre arme, pas... C'est quoi comme tactique, ça? Mais il dit, on va te faire confiance. Voici un peuple, une toute nouvelle génération, qui n'a jamais rien connu d'autre que le désert. Ce n'est pas l'idéal pour former une armée. Et là, les voilà qui doivent combattre, pas seulement une armée, mais des armées qui remplissent cette terre promise, qui, eux, sont bien installés, bien ancrés, qui ont eu toutes les facilités de construire une armée bien solide. Il dit, tu veux que nous? Non, je ne veux pas que ce soit vous. Je veux que ce soit vous que moi j'utilise. Mais c'est moi qui apporte la victoire. Les circonstances ne changent pas qui Dieu est et ce que lui peut faire. Même notre propre faiblesse ne change pas ce que Dieu est capable de faire. Dieu nous montre et nous enseigne constamment comment lui aime utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Croyez pas que Jéricho l'a compris? Il se croyait si fort, si en sécurité à l'intérieur de leur ville bien fortifiée. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire le tour, sonner de la trompette et laisser Dieu faire. Le plus que je me sens faible, le plus que je me sens inapte, peut-être que le plus que je suis en train de laisser de la place à Dieu à faire son œuvre en moi aussi. À ce que je me mette de côté pour que lui puisse opérer. Parce qu'il n'y a pas de plus grand obstacle à ce que Dieu opère dans ma vie que mon ego, ma fierté, mon orgueil. De croire que je sais ce que je fais, au lieu de croire que je sais que j'ai raison de faire confiance en Dieu. Ce peuple devait faire preuve de foi, croire que Dieu allait faire l'impossible, peu importe ce qu'ils demandaient de lui. Et ils l'ont fait. Ils ont au moins appris de leur génération précédente. Dieu continue à permettre des obstacles et des changements dans notre vie aussi. Et ne croyez-vous pas qu'il permet ces obstacles et ces changements pour nous aider à choisir de placer notre foi en lui? Tiens, au début, cette situation dans laquelle tu te trouves, elle était nouvelle à un moment donné. Tu lui as fait confiance, il t'a aidé. Maintenant, il te permet un autre changement que toi, tu n'avais pas prévu. Et ce changement t'apporte son lot de questions et d'incertitudes et de craintes. Bah, continue à lui faire confiance. Tu l'as fait avant. Fais-le encore une fois aujourd'hui. La question n'est pas, est-ce que je vais pouvoir faire face à cette situation ? La vraie question est, est-ce que je vais continuer à faire confiance en Dieu malgré la situation ? N'oublions pas que c'est toujours Dieu qui permet toutes les circonstances, même les plus désagréables, même ceux auxquels il n'est pas obligé de nous dire pourquoi. Je crois que le frère Brian Corbett sera le premier à pouvoir dire, je ne sais pas pourquoi il a permis ceci. Tout comme récemment avec quelqu'un avec qui on parlait, il dit, si seulement Dieu m'expliquait pourquoi. Il dit, on a tout l'exemple de la vie de Joseph. Avec chaque changement de situation dans sa vie, ça n'allait pas pour le mieux. Il était vendu par ses frères, vendu ensuite comme esclave, trahi, menti, mis en prison. Et à chaque fois, s'il y a des années qui passent, il n'y a pas la moindre fois où on voit Dieu lui expliquer pourquoi ce changement. Mais on le voit dire, comment pourrais-je commettre un si grand péché contre mon Dieu? Et c'est pour cela qu'il a pu dire à la fin, à ses frères, ce que vous aviez prévu pour le mal, Dieu l'a prévu pour le bien. Mais il n'aurait pas pu dire ça à la fin s'il ne comprenait pas déjà cela tout au long du chemin. Et c'est parce qu'il le comprenait tout au long du chemin qu'il pouvait garder la foi et de ne pas vouloir pécher contre son Dieu entre-temps, même si Dieu ne lui révèle pas pourquoi la chose. Je sais que Dieu permet, Et je sais que tout ce que Dieu permet, il le permet pour mon bien. Il n'y a jamais la moindre chose que Dieu permet dans ma vie ou qu'il désire dans ma vie qui est dans le seul but de me faire du mal. Mais il veut m'aider, il veut m'enseigner. Si ce n'est rien d'autre, il veut m'enseigner que j'ai raison de lui faire confiance. J'ai raison de placer ma foi en lui au lieu de j'arriverai à tout. Tiens, plan A, plan B, au cas où plan C, là c'est sûr, je suis prêt à tous les imprévus. Et puis Dieu dit, attends voir. Laisse-moi juste faire ceci. Tiens, plan A, B et C, ils partent en cacahuète. Maintenant, reviens à moi et pas à tes plans. Il n'y a rien de mal à planifier, il n'y a pas de mal à regarder vers l'avenir et à planifier. Il n'y a rien de mal à cela. À partir du moment qu'on planifie en incluant Dieu dans nos plans et de ce que notre confiance, elle n'est pas dans nos plans, dans ce que nous avons prévu, dans nos capacités, mais dans ce que Dieu, tu as permis ce changement, tu as permis cette grande imprévue, je dois réaliser, je dois accepter le fait que tu l'as prévu pour mon bien. Que rien n'est hors de son contrôle. Il attend patiemment qu'on revienne avec lui, avec humilité, pour lui faire confiance. N'avons-nous pas une consolation que de savoir que tout ce que Dieu permet dans ma vie ou désire dans ma vie, que c'est également pour mon bien et pas juste, ah ben ça a échappé à mon contrôle, je suis désolé que ça t'arrive, mais on trouvera une solution ensemble. Non, c'est pas comme cela. Et si on revient à Josué, chapitre 1er, on va pas prendre le temps de le relire, mais à partir du verset 5 jusqu'au 9, à maintes reprises, Dieu dit, voici ce que j'ai prévu, mais t'inquiète pas. Je suis avec toi, ne t'effraie pas, ne crains point, prends courage. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de répéter cela aussi souvent? Si ce n'est autre raison qu'il sait que ça fait peur. Il sait que l'inconnu et que les difficultés auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, que ça pourrait nous pousser à ne pas avancer et à ne pas obéir et à ne pas lui faire confiance. Alors à chaque fois, à maintes reprises dans ce petit passage, il dit, prends courage, ne t'effraie point. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas, je suis là. Et le peuple d'Israël lui-même, à la fin de ce chapitre, versets 17 et 18, il dit, nous t'obéirons entièrement. On ne fera pas comme la génération précédente. Tu nous dis qu'on doit avancer, on avancera. Il dit, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse, sauf à ce moment-là. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Il dit, toi, tu nous assures que tu es en règle avec Dieu, que tu es en train d'obéir à Dieu, et on peut te suivre sans problème. Verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Donc même son propre peuple, il dit, on comprend. On a eu l'habitude pendant 40 ans. On a suivi Moïse. Depuis la libération en Égypte, on a suivi Moïse. Moïse est mort. Et c'est toi qui prends sa place. Tu n'as jamais eu à faire ça avant. Tu étais son bras droit. Le bras droit, ce n'est pas pareil que d'être celui qui est devant, qui a la responsabilité même. Et ben non, tu dois faire ce que Moïse n'a pas pu faire, prendre la terre promise. Et Dieu lui dit, prends courage, fortifie-toi. Et alors, son peuple dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Et c'est comme s'il leur disait, on comprend pourquoi et comment cette situation peut faire peur, mais sois consolé, sois encouragé, en sachant et te rappelant qu'on est là, on te soutient, tu n'es pas seul. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il permet qu'on soit dans des situations qui nous fassent peur, mais il veut qu'on apprenne à être encouragé malgré la crainte. Et qu'à force d'être encouragé encore et encore, on ne soit pas seulement encouragé, mais on soit consolé. De savoir, et donc avoir une foi ferme, ben, on n'est pas seul. On a une situation auquel on doit prendre des décisions, oui. On est dans une situation qui nous apporte beaucoup plus de questions que de réponses, mais on n'est pas seul. Dieu est avec nous, Et si Dieu est avec nous, peu importe le changement dans ma vie, tout ira bien tant que Dieu est avec moi. Quand je suis dans la volonté de Dieu, je ne peux être que soulagé. Malgré ce chemin devant moi que je n'ai jamais pris auparavant, qui fait peur, parce que je sais que Dieu ne faillira pas à prendre bien soin de moi, parce qu'il me l'a promis. Parce que ces mêmes paroles qu'il a dit à Josué, on les retrouve dans le Nouveau Testament aussi. Christ et le Saint-Esprit qui le dit à ses enfants, « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je suis là avec vous. » Vous allez passer par beaucoup de changements, par des tribulations, vous allez avoir des joies, vous allez avoir toutes sortes d'expériences, mais peu importe l'expérience que je permets dans ta vie, je suis là avec toi. Et si je doute de cela, si je doute de lui, j'en reviens en fait que je le dérobe de la gloire qui lui revient. Dieu ne mérite pas mon incrédulité. Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Il n'est pas trop faible pour faire ce qu'il a envie de faire. J'espère que vous ne croyez pas que Dieu puisse se tromper en permettant une certaine chose dans votre vie. Alors si vous êtes dans la volonté de Dieu, peu importe les circonstances et peu importe les émotions qu'elles évoquent, vous êtes à la meilleure place possible. Même si les circonstances présentes apportent le lot de souffrance, ce serait pire d'être en dehors de la volonté de Dieu. Émilie, je ne sais pas si tu vas entendre cela, mais je partage ce que j'ai dit à Émilie aussi. Je dis, en lui rappelant de cette vérité, je lui ai dit que ce que j'étais en train de travailler pendant cette semaine, que le Seigneur m'avait mis à cœur, je dis, si on accepte le fait que Dieu a permis cela pour ton bien, ça veut dire que ça aurait été pire pour toi de ne pas casser ta cheville. Ce n'est pas une réalité facile à accepter, mais je crois fermement de tout mon cœur que c'est la réalité. Si on se trouve dans sa volonté, c'est le meilleur endroit qu'on puisse être. Si d'être en dehors de sa volonté, c'est de ne pas avoir ses craintes et ses peurs et ses souffrances, je préfère être quand même dans sa volonté, avec ses craintes, avec ses peurs, parce que j'ai également sa consolation, sa force et sa promesse de prendre soin de moi. Il y a aussi, deuxième vérité qu'on va prendre rapidement, c'est que les changements n'ont rien d'inhabituel pour Dieu. Les circonstances qu'on fait face sont nouvelles, mais elles ne sont jamais nouvelles pour Dieu. Elles ne sont nouvelles que pour nous. Mais je vous assure qu'elles ne sont pas nouvelles pour Dieu. Il n'y a pas la moindre circonstance qui prend Dieu au dépourvu pour que lui dise « Oh, attends un peu, j'ai jamais eu affaire à ça avant, laisse-moi réfléchir et je reviens à toi avec une réponse. » Dieu n'a pas besoin de cela. Nous, on le fait. Parce que nous, on a besoin de prendre du temps pour aller faire des recherches et prier, et demander la sagesse à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation. Mais Dieu n'a jamais besoin de cela. Y a-t-il la moindre prière que Dieu n'a pas déjà entendue? Y a-t-il la moindre prière que je puisse prier aujourd'hui que Dieu n'a déjà pas répondu à travers les décennies et les quelques mille années qui sont passées? Y a-t-il la moindre circonstance qui a échappé au contrôle de Dieu, qui se sont produits alors que Dieu refusait que ça se passe ou qu'il ne voulait absolument pas le permettre? N'avons-nous pas une consolation dans cette vérité? Cela ne devrait pas être une consolation que de savoir que rien n'est nouveau pour Dieu et que rien n'échappe à son contrôle. Pour moi, il y a une grande consolation de savoir que si je suis dans cette situation, c'est soit parce que Dieu le désirait ou soit que Dieu l'a permis, parce qu'il veut l'utiliser pour m'aider à grandir. Si je choisis de placer ma foi et mon amour en lui. N'oublions pas que les difficultés qui sont nouvelles pour nous ne sont même pas nouvelles pour d'autres chrétiens. Quand on regarde les centaines, milliers d'années qui sont passées, certainement il y a eu un très grand nombre d'autres chrétiens qui sont passés à travers les mêmes circonstances que nous sommes en train de passer. Et que Dieu les a aidés. Que Dieu a pourvu, que Dieu les a aidés à traverser de l'autre côté, pour ainsi dire. Et ça aide, ça console de savoir que d'autres ont passé par ce chemin et réussi. Pour le peuple d'Israël, seuls Josué et Caleb étaient encore en vie, qui avaient également fait l'expérience de traverser la mer Rouge. Ça devrait être un grand soulagement pour le peuple d'Israël de pouvoir écouter leur leader et dire, écoutez, voici ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas juste un écrit dans les lois de Moïse, dans la Pentateuque. Mais on était là. On peut vous dire avec précision ce à quoi ça ressemblait. Voici ce que Dieu a fait pour qu'on puisse traverser cette mer Rouge. Et voici ce que comment Dieu est fidèle, et Dieu est capable, et Dieu a toujours fait comme il a promis. Et peu importe si les choses changent, si le chemin est nouveau pour nous ou non, rien de tout cela ne change qui Dieu est ou ce que Dieu peut faire. Il n'y a aucune logique que de laisser les craintes qu'apporte le changement dans notre vie nous faire douter de l'amour ou de la capacité de Dieu pour nous, juste parce que la situation auquel on doit faire face est nouvelle. Il est bon de comprendre que la crainte ou la peur en général ne va jamais diminuer le danger auquel on doit faire face, diminuer la chose qui nous fait peur. De rester dans notre coin en nous focalisant sur toutes les possibilités négatives, les unes pires que les autres, ne va jamais nous aider à traverser l'épreuve que Dieu a permis non plus. Vous connaissez peut-être le passage en 1 Corinthiens 10, 31. Il me semble que c'est le passage que Pasteur Dollaire a eu quand on a partagé les versets au jour de l'an. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. La plus grande gloire que nous pouvons donner à Dieu, ce n'est pas quand tout va bien, mais quand le doute voudrait remplir notre cœur et qu'on fasse le choix de quand même de faire confiance en Dieu, malgré les obstacles, malgré la crainte, malgré la peur, malgré l'inconnu qui est devant nous. C'est comme cela qu'on va rendre gloire à Dieu. De rendre gloire à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais la plus grande gloire, c'est quand on est face à une situation toute nouvelle et on ne voit pas où la solution va venir. On dit, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Tu ne vas pas me laisser, tu ne vas pas m'abandonner. Tu es capable et je sais que tu m'aimes. Tu as permis ceci pour m'aider. On choisit de lui faire confiance. On choisit de placer notre foi en lui. Une dernière consolation que nous pouvons trouver dans les changements que Dieu permet dans notre vie, c'est que je le réalise ou non, c'est que nous avons besoin de ces changements. On a besoin de ces changements pour progresser et mûrir et grandir. Je sais qu'en général, on l'a dit, on n'aime pas le changement. On aime ce qui est confortable. Mais sans changement, il est beaucoup plus difficile de progresser dans la vie et de grandir. Que ce soit dans la croissance de notre corps physique, que dans la progression d'un sport ou dans une entreprise, tout le monde comprend qu'il doit faire des efforts pour arriver jusqu'à un certain point. Et quand on arrive à ce nouveau niveau, certaines choses restent pareilles, mais on doit faire des efforts dans d'autres domaines qui sont nouvelles pour nous aider à continuer à progresser. Le bébé qui rampe, il ne va pas se déplacer à quatre pattes quand il a encore 30 ans. Il ne va pas rester à quatre pattes toute sa vie. Il va apprendre à se tenir debout. Ah ben, pourtant, de se tenir debout, c'est tout nouveau. Ce n'est pas grave. Parfois, quand il essaye de prendre ses premiers pas, il va tomber, il va faire mal. Ce n'est pas grave, tu continues. C'est pour ton bien. Il va aussi apprendre à mettre un pas devant l'autre avec plus d'assurance. Et puis, ah ben, là, on a quelque chose de nouveau. Il y a des escaliers. On va l'aider à apprendre à marcher les escaliers, mais on va bien lui tenir la main. Il dit, tiens, vas-y, essaye une fois, on verra. Il n'y a que 35 marches, c'est rien. Mais c'est tout nouveau. Mais on ne va pas dire, ah, c'est tout nouveau, je comprends, t'inquiète pas pour ça, je vais te porter. On le fait de temps en temps, mais pas au point où il n'apprend jamais à savoir comment monter et descendre des marches. Et ensuite, il va apprendre à avoir plus confiance en cela. Puis vient une nouvelle circonstance. Le papa qui ramène une circonstance, une toute nouvelle, il dit, tiens, voici un vélo. C'est quoi un vélo? C'est pour quoi faire? Je sais marcher, je sais courir, je sais monter les escaliers, pourquoi j'en ai besoin? Puis, non, il sait ce que c'est qu'un vélo, il voit ses copains en faire, il dit, ça ne se fera pas tout seul non plus. Parfois, tu risques de tomber, mais tu te remets dessus, tu réapprends. C'est tout nouveau. Après, le parent sait qu'il ne va pas le laisser abandonner parce qu'il comprend également la joie qu'il y a à la fin, que de savoir, de pouvoir maîtriser quelque chose qui était difficile à apprendre, qui était tout nouveau. Tiens, tu as appris à faire du vélo, c'est bien. Oh, tiens, tiens, regarde ça, il y a des rollers. Quoi? Mais jamais fait de roller, c'est tout nouveau. La vie est remplie de choses nouvelles, des circonstances qui pourraient faire peur. Il y en a certains qui sont plus aptes à apprendre. Ah, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci. Et puis, il y en a d'autres, il faut vraiment les encourager, il faut les pousser. Parce qu'ils ont, ils ont la crainte de ne pas réussir, ils ont la crainte de se faire mal, ils ont la crainte de se ridiculiser, ils ont plein de choses hypothétiques dans leur tête, alors que le parent comprend que je vais les aider à ne pas abandonner parce qu'à la fin, il y aura une telle joie qu'ils aient pu enfin progresser dans la vie. C'est pas juste le fait de marcher, de savoir monter et descendre les escaliers qui suffit, mais de pouvoir avoir toutes ces autres choses. C'est pour leur bénéfice, pour grandir et mûrir. Et Dieu dit, c'est pareil pour votre vie spirituelle. Tu veux que ta foi grandisse, tu veux que tu sois plus ferme dans ta foi, tu veux être, pouvoir mettre en pratique le fruit de l'esprit. Bah, de temps en temps, pour que ça arrive, je vais obliger d'apporter des circonstances qui ne sont pas si plaisantes. Je vais devoir apporter des changements dans ta vie qui vont... Tu t'es confortable dans une certaine circonstance et situation, je vais tout chambouler. Mais persévère, je suis avec toi, je te tiendrai la main, je t'aiderai à te relever. Continue à faire confiance que je te veux du bien. Et à la fin, tu verras, tu pourras regarder en arrière. Merci Seigneur de ce que tu m'as aidé, parce que je peux voir maintenant que combien j'ai pu grandir en maturité, spirituellement. Des choses que je n'aurais pas pu grandir et apprendre autrement. Alors pourquoi est-ce que nous avons, pourquoi est-ce que nous résistons autant au changement que Dieu permet? Pas besoin de tourner, mais je vais lire pour vous. Si vous voulez tourner, libre à vous. Je n'empêche personne. En Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux, chapitre 5, 11 à 14. Dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous vous êtes devenus lents à comprendre. Je n'ai pas dit cela pour vous. C'est partie du passage. Il faut le contexte. Dit, mais vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à boire, à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il dit, il n'y a rien de mal avec le lait. Il n'y a rien de mal d'avoir les bases même de la foi chrétienne. Mais Dieu n'a jamais accordé son salut pour que la moindre personne en reste là dans sa vie non plus. Dieu a toujours la volonté pour chacun de ses enfants de grandir et de mûrir. Il va être patient. Il va nous donner le lait de la parole, des vérités faciles à accepter. Ah Dieu m'aime, ça c'est bien, c'est facile, je l'accepte sans problème. Ah Dieu, et Dieu me pardonne. Ah c'est bien, j'aime cette vérité. Dieu est fidèle, on prend le lait de la parole, on prend le lait de la vérité. Il dit, mais maintenant il est temps que les choses changent. Garde ces vérités, il faut que tu en apprennes des nouvelles qui sont un peu plus dures à digérer, un peu plus dures à accepter et à manger. Bah, de la même manière que je pardonne, tu aimes bien que le fait que je te pardonne, bah, de la même manière que je te pardonne, je veux que tu pardonnes toi aussi. Ah, bah, je comprends, mais je n'ai pas envie. Et enlève le brocoli de mon plat, dis non. Tu as besoin d'un peu de nourriture solide. Le lait, c'était bon, mais tu as besoin d'autre chose maintenant. Ah, tu permets les circonstances nouvelles qui me font peur, mais tu veux que je garde ma joie en toi, que je te fasse confiance. Non, mais enlève les petits pois, là. Non, tu manges tout. Tu prends toute ma parole, parce que je veux que tu grandisses, je veux que tu deviennes fort, je veux que tu sois ferme dans ta foi. Nous devons accepter la nourriture solide que Dieu désire nous donner. Et c'est plus difficile, oui, à digérer. C'est plus difficile à accepter. Et ça demande plus d'efforts que le lait. Mais on en a besoin. N'avons-nous pas une consolation dans cette vérité que ce que Dieu permet, il le permet également parce qu'il sait qu'on en a besoin pour notre croissance. Ce n'est pas juste une connaissance. Je veux que tu passes par cette expérience pour que tu connaisses quelque chose de différent, mais pour que tu apprennes et que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu deviennes plus grand et plus fort. Ce changement, ce chemin inconnu, ce n'est pas un chemin inutile. L'effort que je dois faire pour persévérer n'est pas en vain. On en revient à savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Si je continue dans le chemin sans accepter le changement, automatiquement, je vais m'éloigner de la volonté de Dieu. Et en m'éloignant de la volonté de Dieu, je me mets automatiquement en danger. Quand j'accepte cette nouvelle direction que Dieu me donne, même si l'inconnu me fait peur, j'ai la consolation de savoir que je suis dans la bonne direction, que je suis dans la volonté de Dieu. Quand on voit les changements comme une nécessité et de ne pas voir les changements comme un obstacle, alors on pourra accepter les changements plus facilement. Ça ne veut pas dire que les changements seront plus faciles, mais le fait qu'on accepte le changement nous aidera à avoir une attitude qui honore le Seigneur. Pour conclure, je vous demande, est-ce que vous vous rappelez des changements que vous avez dû faire face en janvier 2024? Peut-être quelques-unes, n'est-ce pas? Pourtant, il est possible qu'à ce moment-là, ces mêmes changements semblent bien plus grands, peut-être même trop grands, trop difficiles à ce moment-là pour vous. Mais vous voilà un an après, et vous avez peut-être même du mal à vous en rappeler. Oh, ça fait loin, janvier 2024, déjà décembre 2024, j'ai du mal, alors. Mais si vous en rappelez, je suis certain que les circonstances ne vous influence plus aujourd'hui comme elle vous a influencé en 2024. Vous dites, bien sûr que non, c'était l'année dernière, c'est passé. Ben oui, ben comprenons bien que Dieu n'est pas affecté par le temps comme nous non plus. La Bible nous dit en 2 Pierre qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour hein, pour Dieu. Et quand Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, ce changement est pour ton bien, ben, Dieu le dit parce qu'il ne voit pas seulement l'effort qu'il veut que nous voir faire, hein. Et que cet effort nous est difficile. Mais Dieu, en étant en dehors du temps, il voit déjà le résultat que ça va produire dans ta vie. Il voit déjà combien ça... Le fait que tu persévères, que tu lui fasses confiance, va t'aider à grandir. Et nous devrions avoir une vraie consolation de savoir que c'est toujours Dieu qui permet les imprévus, les changements dans notre vie, que c'est, les changements n'ont rien d'inhabituel pour Dieu, et que nous avons toujours... Que nous avons... actuellement besoin de ces changements pour pouvoir progresser. Pensez à tous les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, des personnes qui avaient l'habitude d'avoir des choses d'une certaine façon et avoir quelque chose de complètement nouveau, un changement radical venir dans leur vie. Je pense à Noé. Je veux que tu construises une arche. Une arche, c'est quoi une arche? Je vais faire pleuvoir. Pleuvoir, c'est quoi la pluie? Il dit, t'inquiète pas, je te donne les dimensions, fais. Et bon, je te fais confiance, Seigneur. Je comprends pas tout ce que cela implique, mais j'ai jamais fait ça auparavant. Je peux avoir un essai? Non, t'inquiète pas, ça prendra assez de temps pour le faire déjà. Alors, Moïse, il a jamais guidé un peuple avant. Il a jamais été utilisé pour produire le moindre miracle. Le peuple d'Israël va d'un peuple d'esclaves à une armée qui prend possession d'une terre promise. J'aime le passage en Ruth que j'ai relu récemment, Ruth 2:11, où Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comme tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Malgré ce changement dans ta vie radical, malgré cet inconnu, tu as été fidèle envers ta belle-mère, tu l'as servie. Et ça a touché le cœur de Boaz. Ça a eu un impact, une influence sur lui. Elle n'a pas laissé l'inconnu l'empêcher de faire ce qu'elle pensait être juste. David n'avait jamais fait face à un géant auparavant. Il a fait face à un lion, un ours. Un géant, c'est autre chose. Esther, être reine, n'avait rien de familier pour elle. Les disciples n'avaient jamais fait de miracle auparavant. Pierre, certainement jamais marché sur l'eau auparavant. Mais il y a également les changements de direction dans la vie. Moïse est allé d'un fils de Pharaon à un berger, à un leader, à un libérateur, et à être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Josué d'un esclave, à être le bras droit de Moïse, à être lui-même le leader et un chef d'une armée. David, pour faire simple, on va dire juste, il était de berger à roi. On pourrait incorporer plein de choses entre-temps. Joseph, on a parlé tout à l'heure, était le dernier à son époque, le petit enfant gâté, un esclave, un prisonnier, à être le deuxième plus grand en Égypte. Tous des choses nouvelles, des circonstances, des changements de direction dans la vie totale. Des disciples qui sont allés de simples pêcheurs à des disciples de Christ. Paul, du persécuteur de l'Église au défenseur de la foi. Et on pourrait continuer cette liste encore et encore et encore, n'est-ce pas? Dieu donne appelle des hommes et ses enfants à faire des changements radicaux dans leur vie, il s'attend à ce qu'il leur fasse confiance. Seigneur, je sais que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas, Je te fais confiance. Fais comme bon te semble. Toujours aujourd'hui, Dieu appelle de simples serviteurs à devenir ce que la Bible dit, ses ambassadeurs, de parler en son nom, à aller dans le monde, quitter sa ville, sa famille, même son pays. Seriez-vous prêt à le faire? Ah, mais ça, je ne sais pas. J'ai ma famille ici, puis j'ai mes habitudes ici, puis j'ai mon travail ici. Mais si Dieu vous demandait d'être missionnaire, d'aller apporter la parole ailleurs, est-ce que vous avez même juste la pensée de dire, Seigneur, je ne sais pas si c'est ce que tu veux que je fasse, mais je suis disposé. Le monde le fait. Le monde se déplace hein, pour le travail, pour l'argent. Ils vont aller même pas juste dans une autre partie de leur pays. Il y a, je ne sais plus combien ils avaient dit, combien de Français vivent aux États-Unis, vivent en Allemagne, vivent un peu partout dans le monde à cause de leur travail. Et je dis bien vivent, pas qu'ils y sont là pendant 6 mois et qu'ils reviennent. Ils sont là depuis des années. Le monde le fait pour le travail et Dieu dit, moi je veux, est-ce que vous seriez prêt à le faire pour moi? Je dis, mais j'ai jamais fait ça avant. Mais jamais fait ça avant, ce n'est pas une excuse valable. Et parce que Dieu dit, toi tu ne l'as jamais fait, mais moi j'en ai aidé un grand nombre à le faire. Parce qu'aucun d'eux ne l'a fait de par leur propre force. C'est moi qui fais la différence. Es-tu prêt à passer ce fleuve en me faisant confiance? Les situations, les circonstances ne changent pas qui Dieu est. Prions, s'il vous plaît.